Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Et il va bientôt arriver, l'ami NVB. Ça y est, c'est le week-end. Et comme tous les samedis de 9h15 à 10h sur RTL, voici venue l'heure de Nous voilà bien, votre magazine conso. Alors on ne perd pas de temps, place au sommaire. Plus de 100 000 dossiers passent en commission chaque année. Comment se faire aider en cas de surendettement ? Armelle Lévy, journaliste au service éco et conso d'RTL, nous dit tout sur les recours possibles. La consommation de soda a quintuplé depuis les années 50 jusqu'à atteindre, écoutez bien, 66 litres par an et par personne ces dernières années. Alors, ces boissons gazeuses sont-elles vraiment mauvaises pour la santé ? Réponse avec Fanny Comandini, diététicienne nutritionniste. C'est bientôt Pâques et qui dit Pâques dit chocolat bien sûr, mais comment le cuisiner le chocolat? On se régale grâce à Ligori Lecomte, chef du site cuisineaz.com et auteur culinaire. Armelle Lévy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL. Alors, tout le monde se pose la question, c'est même impressionnant. Ça veut dire quoi, être en surendettement ?
Alors, être en situation de surendettement, c'est quand on ne peut plus faire face au paiement de son loyer, des factures d'électricité, quand on ne peut plus payer les dépenses quotidiennes, les charges, les mensualités de crédit. C'est quand on ne peut plus payer ses dettes exigibles. Après, cela ne veut pas forcément dire qu'on est en impayé. Et ça, c'est important. Beaucoup pensent qu'on ne peut pas déposer un dossier de surendettement si on arrive encore à payer. En fait, de nombreux Français arrivent à jongler avec les crédits renouvelables, ils tirent sur la réserve, ils parviennent à régler leur mensualité et pourtant, ils sont en situation grave de surendettement.
Mais comment est-ce qu'on peut évaluer en fait, Armelle, si on est en situation de surendettement ?
Eh bien, la Banque de France fait une évaluation assez facile, elle prend tout ce qui rentre, vos ressources, salaires, allocations, elle retire les charges que vous payez au réel, le loyer, les impôts, la mutuelle, elle retire aussi 560 euros par mois, c'est le montant estimé des dépenses de la vie courante pour une personne seule qui prend en compte la nourriture, les vêtements et les dépenses d'habitation. Eau, électricité, assurance, 105 euros. Elle retire encore 80 euros de forfait chauffage. Au total, tout cela donne votre capacité de remboursement. Si le reste à vivre est négatif, si vos dettes et crédits à rembourser chaque mois sont supérieurs à cette capacité de remboursement, vous êtes en surendettement et vous pouvez déposer un dossier pour vous faire aider.
Mais en fait, c'est une situation reconnue officiellement ?
Ah bah, il n'y a pas un certificat de surendettement en tant que tel, mais du moment où votre dossier est accepté, la Banque de France reconnaît que vous êtes surendetté, elle va pouvoir vous proposer des solutions adaptées pour remonter la pente.
Alors, est-ce qu'on peut sortir d'une telle situation sans saisir la commission de surendettement ? C'est risqué en même temps.
Oui, mais tout dépend de la situation. Alors, il y a toujours un moyen pour demander de renégocier son crédit, de les regrouper, ou demander un étalement des paiements aux fournisseurs d'électricité, aux impôts. Mais tout seul, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Donc, je vous conseille vivement de vous rendre dans un point conseil budget. Il y en a partout en France, 400 sur tout le territoire. C'est public, le rendez-vous est gratuit, confidentiel et surtout personnalisé. Un conseiller, membre d'une association de consommateurs ou travailleurs sociaux, va vous aider à mieux gérer votre budget. Si vous avez perdu des revenus, il va d'abord regarder si vous touchez bien les aides auxquelles vous avez droit. Après, il va éplucher vos comptes pour voir s'il n'y a pas des doublons. Vous payez deux fois les mêmes assurances sans le savoir, on va en supprimer une. Il va vous aider à supprimer les abonnements qui ne servent à rien, comme les chaînes du câble que vous ne regardez jamais. Et il va vous aider à renégocier tous vos contrats auprès du fournisseur d'énergie, de la mutuelle, pour qu'il soit bien adapté à vos besoins. Et si vous ne pouvez plus payer votre loyer, il peut aussi saisir le fonds de solidarité logement pour trouver une solution et faire une demande d'aide auprès du bailleur. Le conseiller peut aussi vous proposer d'enclencher une procédure de délai de grâce. Alors là, cela permet d'aller devant le juge pour demander la suspension des mensualités de crédit, dès lors qu'on a une situation financière dégradée transitoire, et donc une chance de faire meilleure fortune. Oui. Par exemple, vous perdez votre travail ou vous allez perdre votre travail au chômage. Vous ne pourrez pas assumer les mensualités de crédit. Vous pouvez demander au juge de suspendre les mensualités pendant 2 ans maximum, le temps de retrouver un emploi et de retrouver la capacité de repayer le crédit.
Est-ce qu'il ne faut pas s'y prendre rapidement ? Enfin, je pense toujours, vous savez, parfois on essaye de maintenir finalement les choses en toute bonne foi parce qu'on est, honnête et puis on commence à avoir les huissiers qui viennent frapper à la porte.
C'est vrai, hein, Flavie, vous avez raison, il ne faut pas attendre. Ouais. Si on est au tout début du surendettement, le conseiller a plus de marge de manœuvre que quand il y a beaucoup de dettes et d'impayés, quand toutes les solutions sont épuisées ou qu'il y a beaucoup de dettes. Donc c'est là que le conseiller conseiller peut monter avec vous le dossier de surendettement.
Et à quoi elle sert, cette fameuse commission de surendettement ?
Eh bien, cela peut faire peur au premier abord, mais oui. Comme le rappelle l'association Crésus, qui accompagne les personnes surendettées, on a un système en France qui est juste impressionnant, qui sauve les gens et qui permet de payer ses dettes en fonction de son budget.
Et en voilà une bonne nouvelle.
Mais oui, non mais c'est vrai.
Quand même, dans ce monde bizarre.
Non mais c'est vrai, c'est très important. Si le dossier est accepté, la Banque de France va envoyer un courrier aux créanciers pour leur dire que la personne est en surendettement, donc qu'il ne faut plus lui prendre les mensualités de crédit et qu'elle est protégée des poursuites. Et c'est ça tout l'intérêt du dossier de surendettement. Quand vous êtes recevable à la procédure, vous ne payez pas les mensualités et vous êtes à l'abri des saisies d'huissiers et du harcèlement des sociétés de recouvrement, le temps de mettre en place un plan pour remettre les compteurs à zéro, que ce soit en rééchelonnant les dettes ou en les effaçant.
On peut même effacer les dettes, mais qui est-ce qui peut saisir justement la commission de surendettement ?
Uniquement les particuliers, donc pas tout le monde, parce qu'on parle ici des dettes personnelles, pas professionnelles, ouais. Ce qui implique que vous ne pouvez pas déposer de dossier de surendettement si vous êtes auto-entrepreneur, travailleur indépendant, profession libérale, micro-entrepreneur, agriculteur, artisan ou commerçant, même si c'est une activité complémentaire qui ne vous rapporte rien. Les dettes professionnelles relèvent du code du commerce, donc c'est une autre procédure. La seule parade, si les dettes ne sont pas liées à cette activité, c'est de se radier de l'activité à l'URSSAF pour pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement de la Banque de France, mais cela veut dire perdre ses revenus. Alors, si on regarde bien, qui cela concerne en réalité ?
Il y en a beaucoup ou pas ?
Oui, sur plus de 100 000 dossiers déposés et acceptés chaque année, les adultes isolés, les femmes seules avec enfants, au chômage ou sans activité sont surreprésentées et 6 sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 1063 euros par mois.
Alors évidemment, certains nous écoutent et peuvent peut-être aussi voir une issue hein, dans vos propos et dans vos informations ce matin. Quelles sont les démarches qu'on peut faire pour obtenir ce fameux statut de personne surendettée ?
C'est assez simple. Hein. Il suffit de déposer un dossier à la Banque de France dans votre département. On peut le télécharger et le remplir en ligne sur le site de la Banque de France.
Merci beaucoup Armelle Lévy. Tout ça, c'est super intéressant. Mais évidemment, certains nous écoutent et vont peut-être trouver une issue justement dans toutes les informations que vous nous donnez. On va se retrouver dans un instant et s'intéresser justement à tout ce que cette fameuse commission de surendettement peut mettre en place pour nous aider. On se retrouve tout de suite dans Nous voilà bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
Soyez les bienvenus dans Nous voilà bien, votre magazine conso du samedi matin. Dans un instant, on va vous parler de soda, on va vous parler de chocolat, mais ça c'est pour la gourmandise. En attendant, vous l'entendez parce qu'elle est gourmande justement, Armelle Lévy, elle nous parle de choses sérieuses mais qui peuvent en aider certains d'entre nous, c'est le surendettement. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Bon, pas facile, hein, le surendettement, mais ce dont on se rend compte quand on vous écoute, Armelle Lévy, ce matin, c'est que on peut être aidé en France et qu'il y a un véritable système de soutien mis en place pour les personnes surendettées. Alors, il y a une commission dont vous nous avez parlé il y a un instant. Est-ce qu'elle peut rejeter une demande ? J'imagine que oui.
Oui, mais l'an dernier, 97% des 108 000 dossiers ont été acceptés. C'est vraiment du cas par cas. Mais bon, si elle considère que vous êtes de mauvaise foi, que vous avez accumulé des dettes en ayant menti à tous vos créanciers, là, elle peut refuser le dossier.
Alors, quelles sont les solutions qu'elle peut mettre en place pour nous aider ? Tout à l'heure, vous parliez d'effacer les dettes. J'imagine que ça, c'est le Graal. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire ?
Alors, si vous êtes encore en capacité de rembourser vos dettes, elle va proposer de rééchelonner les dettes. C'est un plan de règlement des dettes à l'amiable. Généralement, elle va mettre les taux des crédits à zéro et réduire les pénalités. Si vous n'êtes pas propriétaire, le plan va s'échelonner sur maximum 7 ans, y compris avec effacement partiel des dettes à la fin du plan, là on enterre le reliquat. Mais si vous êtes propriétaire de votre maison et que vous avez une capacité de remboursement, le plan peut durer au-delà, jusqu'à 25-27 ans, pour que le propriétaire puisse garder son toit, son bien immobilier. Et ça c'est important, hein, parce qu'on a souvent le cliché de la vente de la maison quand on est propriétaire en surendettement. Ce n'est pas forcément le cas, et c'est même très rarement le cas. Donc ça c'est le rééchelonnement de la dette, c'est la solution trouvée qui concerne 56% des dossiers de surendettement.
Sinon, il y a quoi alors ?
Alors, s'il n'y a pas de capacité de remboursement, il y a deux solutions. La Banque de France peut estimer, pour des jeunes au chômage de 25-30 ans pour l'instant, c'est une mauvaise passe, mais d'ici 2 ans, ça ira mieux, ils pourront retrouver du travail. Donc, la Banque de France va suspendre les dettes pendant 2 ans. Elle va proposer de les reporter, c'est un moratoire, le temps de rebondir.
Alors, la dernière solution,
alors là, il y a peu de chances de retrouver meilleure fortune, c'est l'effacement pur et simple des dettes. Cela concerne 43% des dossiers de surendettement, mais dans 1% 100% des cas, cela s'accompagne de la vente du patrimoine et donc de la maison. La dette va être effacée après liquidation judiciaire devant un tribunal pour rembourser au maximum les créanciers. Mais après, au bout du compte, il n'y a plus de dette, on repart à zéro.
Donc on a toutes les chances là, dans ces cas-là, de pouvoir évidemment reconstruire. Combien de temps dure la procédure pour être acceptée ?
Alors, ça dépend. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque de France a 3 mois pour vous dire si le dossier est recevable ou pas. Ouais. Après, il y a 6 mois pour mettre en place la procédure et donc un plan. Ouais. Et ensuite, la suspension des dettes peut durer donc maximum 2 ans. Le rééchelonnement des dettes peut durer 7 ans pour un locataire et 27 ans pour un propriétaire.
Et une personne surendettée, est-ce qu'elle est fichée ? Est-ce que c'est marqué sur son front ?
Alors, bon, c'est ça qui peut faire peur, mais les fichiers ou fichiers des incidents de paiement des crédits, c'est quoi la conséquence ? Elle ne peut plus faire de crédit. Et comme les organismes bancaires sont obligés de consulter ce fichier avant d'accorder un prêt, ça lui sera de toute façon refusé. Et la banque doit lui proposer son offre pour clients fragiles avec un plafonnement à 20 euros par mois et 200 euros par an des frais d'incident bancaire.
D'accord. Et au niveau des moyens de paiement, est-ce qu'on garde ceux que l'on a d'habitude ?
Alors, en théorie, oui, mais dans la réalité, non. Ce n'est pas dans la loi, mais comme la personne surendettée n'a pas le droit de souscrire un nouveau crédit, en fait, chaque découvert est un nouveau crédit. Et donc, dans la pratique, les banques imposent des solutions sans découvert. Des cartes à autorisation systématique, elles suppriment d'office le chéquier pour une gestion plus stricte et donc plus carrée. Mais les associations de consommateurs, comme la CLCV, le rappellent, il ne faut pas avoir peur de la procédure de surendettement en France. Elle peut vraiment sauver des gens. L'an dernier, l'endettement des Français, dont le dossier a été accepté par la commission de surendettement, s'est élevé à près de 5 milliards d'euros. 6 dossiers sur 10 ont bénéficié d'un effacement des dettes, intégral ou partiel. En moyenne, par personne, ce sont plus de 21 000 euros qui ont été rayés de l'ardoise.
Oh bah écoutez, ce samedi matin, là, vous donnez de l'espoir à certains qui nous écoutent et qui peut-être ignoraient.
Le bout du tunnel. Hein,
exactement, parce que c'est vrai que le surendettement est un parcours extrêmement douloureux. Merci beaucoup, en tout cas, Armelle Lévy, pour toutes ces informations très précieuses pour nos auditeurs. Tout à l'heure, vous m'avez confié que vous adorez le chocolat.
Oh, j'adore. Sous toutes ses formes. Fondue,
c'est
en
pas
gâteau,
pour tout de suite.
En bonbon.
Ce sera un petit peu plus tard. En revanche, est-ce que vous buvez des sodas ?
Oh, pas trop, non. Un peu trop sucré pour moi.
Eh bien, justement, on va en parler. Figurez-vous dans un instant avec une diététicienne nutritionniste qui nous rejoint. Merci, Armelle Lévy. À bientôt sur RTL.
À bientôt.
Bon. C'est pas l'heure du soda non plus, hein. Faut pas charrier, il est trop tôt quand même. Bonjour Fanny Commandini.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes diététicienne nutritionniste, on parle du soda qui fait un carton chez les jeunes. Est-ce que c'est justement, comme nous le disait il y a un instant Armelle Lévy, parce que c'est trop sucré ?
Effectivement, le soda c'est un vrai sujet, et notamment chez les jeunes. Ils sont très appréciés parce que le marketing, la communication fonctionne bien. Il y a beaucoup de publicité, un packaging sympa. Donc en fait, boire des sodas, c'est un peu cool, ça donne une image cool. Donc ils ont souvent envie d'en consommer. Et puis bon, beaucoup de sucre présent en quantité très importante dans ces boissons, qui va être apprécié par notre cerveau. Donc il n'y a pas forcément que les jeunes qui vont apprécier ces boissons.
C'est ce que j'allais vous dire, évidemment.
C'est ça. Exactement, les plus vieux aussi, puisque ça va libérer de la dopamine, ça va nous faire nous sentir euphoriques, et puis ça va nous donner envie d'y retourner, un peu comme une drogue en fait. Hein. Et
c'est
puis
ça,
dans certains
sodas,
il y a de la...
Fait, hein.
Exactement, le sucre c'est une drogue, et du coup ça va nous donner envie d'en consommer de plus en plus. Dans certains, il y a en plus de la caféine, qui est un psychostimulant, qui va aussi contribuer au fait de nous donner de l'euphorie et de nous donner envie d'en consommer.
Mais c'est vrai que les étiquettes, elles sont parfois difficiles à comprendre, quoi. Et puis je dirais qu'encore plus peut-être les étiquettes de soda, on ne se pose pas véritablement la question, on ne va pas voir ce qu'il y a dedans.
C'est vrai. Alors en fait, je pense que c'est peut-être un peu fait exprès. Hein. Ils ont bien fait leur travail. On commence à regarder, on se dit, bon, il y a du sucre, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? C'est vrai qu'il faut quand même un peu comprendre l'étiquette, et ça pour tous les produits, pour se rendre compte si c'est bien ou pas pour la santé. Et dans les sodas, il y a effectivement du sucre, mais il faut savoir qu'il n'y a pas grand-chose de naturel, puisque ce sont des boissons qui sont issues de divers procédés chimiques. Donc on va retrouver des arômes, des colorants artificiels, comme souvent le caramel, le E150D. Donc ils contiennent surtout, ce qui va être le pire dans le soda en fait, c'est l'acide phosphorique, qui est un produit très corrosif, donc qui va d'abord attaquer les dents. C'est pour ça que dans le, quand on boit des sodas, on va avoir des caries ou autre. On va avoir des dents qui peuvent être marquées. Puis après, forcément, si c'est corrosif et que ça attaque les dents comme ça, forcément, ça va continuer d'attaquer dans l'organisme en descendant, donc l'estomac, le foie. Et c'est ce qui peut provoquer des maladies digestives, hépatiques, intestinales, à force d'en boire régulièrement.
Donc, c'est super toxique pour notre corps, les sodas. Tous ?
Bah oui, oui, complètement. Là, vous l'avez compris par la composition, effectivement. Ça va provoquer caries, troubles digestifs, mais il y a aussi des études qui ont montré que ça pouvait augmenter le risque de surpoids, l'obésité, le diabète de type 2, forcément, puisque c'est sucré, calorique. Donc, ça joue énormément sur l'obésité, qui est un problème aujourd'hui dans de nombreux pays et en France. Ce sont des maladies graves qui vont compliquer un vieillissement agréable. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est mieux de limiter.
Mais alors, et par quoi est remplacé le sucre, puisque vous en parlez, dans les soda light ou les 0%?
Alors, quand on choisit de se dire, bon, bah, je vais pas prendre un soda parce qu'il y a trop de sucre et je sais que c'est pas bon pour la santé, je sais que ça va pouvoir apporter des maladies assez graves, je vais choisir un soda light, par exemple, ou un soda sans sucre. C'est pas forcément la bonne solution. Parce que quand il n'y a pas de sucre, il y a forcément autre chose. Il y a forcément un autre produit qui va continuer à donner le goût du soda. Il va souvent être remplacé par des édulcorants. Donc, on les connaît. Hein, on va retrouver l'aspartame, le sucralose, le sorbitol. Et eux, contrairement à ce qu'on pense, ils vont aussi avoir un rôle dans l'augmentation du diabète de type 2. Donc, ils sont eux aussi très décriés, très mauvais pour la santé. Les édulcorants vont augmenter la sensation de faim. Parce qu'ils vont stimuler les récepteurs du goût sucré. En fait, quand on va boire le soda, le cerveau va quand même avoir le même message. Quand on va boire le soda light, le cerveau va avoir le même message que quand on boit un soda qui n'est pas light. C'est-à-dire, coucou, voilà du sucre, je suis content, vite, je mets en place mes récepteurs pour les goûts sucrés. Et puis finalement, il n'y a pas de vrai sucre. Donc, ils s'attendent à en recevoir, mais ils n'en reçoivent pas. Donc, ça va créer à force une sensation de faim. Donc, c'est pas une bonne solution sur du long terme et c'est très mauvais pour la santé.
Bon, et bien dites donc, on va se retrouver dans un instant parce que on est quand même surpris, hein, évidemment, que ce genre de soda soit dans tous nos supermarchés et à la portée de tous les jeunes. On va voir s'il y a une réglementation quand même sur les additifs et puis on va voir aussi s'il y a des alternatives au soda et lesquelles. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Ça marche.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Dans un instant, on va parler du chocolat. Mais oui, c'est bientôt Pâques, on va se régaler. Mais pour l'heure, attention, gare au soda avec Fanny Comandini.
Le restaurant de l'attitude, c'est quoi? C'est un restaurant comme tous les restaurants, sauf qu'un Coca-Cola, ça coûte 19 euros. C'est genre avant de commander le coca, tu étais là, on dirait que tu vas acheter un appart.
Eh ben bravo. Et Fanny Comandini, vous êtes devenue l'ennemi, je dirais, de tous les adolescents qui nous écoutent et qui sont en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, la diététicienne nutritionniste sur RTL? Les parents ne vont plus acheter de soda. »
Je ne vais pas être leur copine, c'est ça. C'est ça, les diététiciennes, c'est pas fun, en fait, quand ils viennent donner des messages. C'est pas très sympa.
Alors, en même temps, vous nous informez, ça c'est important, les jeunes qui nous écoutent là, et les moins jeunes d'ailleurs, hein, le soda, ça n'est pas bon pour la santé. Il y a trop de sucre et quand ce n'est pas du sucre tel qu'on l'entend, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a quand même une réglementation sur les additifs parce qu'on a l'impression qu'il n'y a, que des cochonneries dans le soda et pourtant c'est toléré et c'est en vente partout.
Ouais. Oui, tout à fait. Donc heureusement, il y a quand même une réglementation et on peut quand même... Je décris beaucoup les industriels, mais on peut leur faire confiance. Ils sont obligés et suivent la réglementation qui leur est imposée par l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Heureusement pour les consommateurs, c'est ça pour tous les aliments, mais aussi pour les sodas. Donc un additif n'est autorisé que dans une certaine limite. En fait, c'est simple. Okay. C'est soit ils vont en interdire certains parce qu'ils ont la preuve que ces additifs-là vont causer des dégâts importants sur l'organisme et vaut mieux pas en consommer. Donc ça va être interdit. Soit les autres, ils vont être limités et du coup, ils vont définir une dose maximale qu'on peut ingérer et qui ne créera pas de risque ou peu de risque pour le consommateur. Et dans ces cas-là, l'industriel peut en mettre, mais à des doses réglementées. Par contre, vous l'avez bien compris, c'est une dose réglementée, mais imaginons, on boit constamment du soda avec cette quantité d'additifs, on va forcément dépasser la dose qui avait été conseillée. Donc, les risques vont forcément augmenter, et c'est pour ça que je redis bien, je ne dis pas de ne pas en boire, je suis quand même un petit peu funky, je dis de limiter. Je dis qu'en fait, c'est bien de faire attention à la consommation.
C'est donc, ça devrait être comme l'alcool, en fait. Fanny, ça devrait être comme l'alcool. On devrait dire soda, pas plus de 2 verres par jour, par exemple.
Mais c'est ça. En plus, c'est ça. C'est pas plus. Alors, pas par jour. Oui, c'est plutôt par semaine. On essaye de limiter la consommation de soda par 2 fois par semaine, une canette, on va dire l'équivalent d'une canette. Oui, quand même, parce que c'est une vraie drogue et on devient très vite addictif. Très vite addict au sucre. Donc, c'est comme l'alcool, comme la cigarette, il faut limiter.
Mais dites-moi, c'est quoi la maladie du soda dont tout le monde parle ? On dit tous à nos enfants, attention, tu sais, il y a la maladie du soda, mais enfin bon, on n'est pas tous capables de l'expliquer.
C'est ça, donc bon, attention, on va boire un peu de soda, on ne va pas forcément attraper cette maladie quand même, je ne veux pas traumatiser tous les auditeurs dès le début du week-end, mais la maladie du soda, c'est la maladie en fait du foie gras, donc le nom scientifique, c'est le NASH, N-A-S-H, donc en fait, c'est une stéatohépatique qui n'est non alcoolique, donc c'est une vraie maladie dans le foie, avec une accumulation de graisse dans le foie, qui va être due à une consommation de trop de calories, trop de sucre et trop de graisse. Le stade ultime de cette maladie, c'est la cirrhose, donc ça laisse quand même des traces chez quelqu'un, donc ça va plutôt apparaître chez les jeunes, c'est plutôt quand on a consommé étant jeune beaucoup de soda, et à l'âge adulte, on a ce risque d'attraper cette maladie. Il faut, en fait, ça va souvent être causé parce qu'on va avoir un apport calorique et sucré important et on va pas faire d'activité physique à côté. Donc le foie va s'engraisser.
Ouais, et puis qui sera bourré de soda, quoi. Et dites-moi, il y a bien des alternatives au soda. Vous savez, on nous propose de faire nos sodas maison, là. C'est bien ça ou pas?
Donc ça peut être une bonne alternative. Et puis on peut choisir des parfums. Et là, au niveau de la quantité de sucre, en le fabriquant soi-même, ce sera beaucoup moins élevé que dans un soda qu'on va acheter au supermarché. Après, attention, je le précise quand même, le sirop n'est pas forcément une très bonne alternative parce que c'est beaucoup de sucre aussi et on peut avoir la main légère en mettant du sirop. Donc c'est bien, mais si on se limite à une cuillère à soupe dans un verre d'eau, et si vous testez, vous verrez que c'est assez light. Et les eaux aromatiques aussi qui ont un peu cette image healthy, comme on dit en ce moment, cette image un peu saine de l'eau, mais avec un petit goût aromatique, peuvent être très sucrées également. On peut retrouver la même quantité de sucre que dans un soda, donc c'est pas forcément la meilleure alternative non plus.
Donc en fait, rien de tel qu'un verre d'eau gazeuse avec des fruits qu'on va mettre à l'intérieur.
C'est ça, si on a envie un peu de l'effet gazeux, le faire soi-même, essayer d'infuser, essayer de venir ajouter, pourquoi pas, une petite cuillère à café, de sirop, des goûts de fruits, effectivement, ça sera la meilleure solution. Et puis, de garder la consommation des sodas pour quelque chose, pour un événement exceptionnel, pour de temps en temps, quand on en a vraiment envie, et essayer d'espacer.
Merci beaucoup, Fanny Commandini, pour tous ces conseils ce matin sur RTL. Vous êtes responsable de la diététique du programme de rééquilibrage alimentaire Croque Kilo, et c'est le 21 avril que sortira votre livre Croque Kilo, pâtisserie gourmande et minceur, 3e volet de la série. Merci beaucoup, Fanny. À bientôt sur
RTL. Merci à vous. Merci, bon week-end.
Moment que tout le monde attend. Bonjour, Ligori Lecomte.
Bonjour, Flavie. Voilà, je suis attendu et j'arrive en musique. C'est parfait.
Oh là là, la star du samedi matin. En plus, vous arrivez aujourd'hui avec du chocolat. Vous savez nous acheter, vous. Hein. Vous êtes chef du cuisinezette.com et auteur culinaire. Et dites-moi, c'est normal que j'aime le blanc?
Oh bah écoutez, oui, c'est que vous avez tendance à aimer
que c'est pas bien.
Un peu plus le sucre. Mais non, mais voilà, chacun ses goûts. Il en faut un peu de tout. Moi, je préfère le noir. Comme ça, vous voyez, on sera pas jaloux tous les deux.
On pourrait partager le même assortiment. Voilà, ce serait très
exactement.
Bien. Voilà. On va se retrouver dans un instant, Ligori Lecomte, entre le noir, le lait, le blanc. Est-ce que c'est très calorique le chocolat? Parce qu'on se pose tous la question, mais en même temps, c'est Pâques. Et puis en même temps, en ce moment, on a besoin de se faire du bien. Et puis c'est quand même meilleur que le soda dont on parlait il y a un instant. Et puis comment bien choisir et cuisiner son chocolat, ce sera avec vous dans un instant. A tout de suite, Ligori.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Vous sentez vos papilles gustatives qui s'excitent? Bon, c'est pas parce que c'est Ligori le Comte qui nous rejoint. Hein. Si, un petit peu quand même, mais c'est parce qu'il va nous parler du chocolat.
Taille-moi les hanches, à la hache, j'ai trop mangé de...
Et franchement, vous nous faites un effet Ligori le Comte. C'est quand même incroyable l'effet du chocolat, quoi. Pourquoi est-ce que ça nous met en joie, ça nous met de bon poil?
Bah, c'est autant un petit peu un plaisir que de l'interdit, parfois les deux en même temps. Donc ouais, c'est vrai que ça crée une petite excitation dès qu'on est devant une boîte ou devant un bon chocolat. Ouais.
Ça nous remonte le moral en plus. Hein. Et puis en ce moment, c'est vrai qu'on est dans un monde un peu bizarre, quoi, qui marche sur la tête. Donc on est bien content de voir Pâques arriver avec son lot de chocolat. La différence entre le noir, le lait et le blanc. Moi, je vous disais que j'adorais le blanc. Tout le monde a dit « Ouais, c'est pas du chocolat ». Ok, mais c'est bon. Oui, alors, expliquez-nous un petit peu.
C'est un peu ouais, ce qu'on dit, que c'est un faux chocolat. En fait, ça va surtout se jouer sur la quantité de cacao minimum qui va être compris dans le chocolat. Chocolat noir, on va être à 35% minimum. Chocolat au lait, on va être plutôt sur les 25%. On va y rajouter forcément un petit peu de lait dedans aussi. Hein, donc, il va un petit peu s'alléger. Et le blanc, lui, à proprement parler, c'est pas vraiment du cacao, mais plutôt du beurre de cacao, auquel on va rajouter aussi le lait, le sucre, et puis parfois quelques arômes dedans. Donc voilà, vous êtes plutôt dans cette catégorie-là.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le chocolat, dans une tablette de chocolat?
Alors en général, hein, c'est assez facile hein, à retenir, hein, c'est le sucre, donc le cacao, plutôt une masse de cacao, d'accord, on appelle ça, le beurre de cacao, et puis après, je vous ai dit, hein, un petit peu de lait, quand c'est ce chocolat au lait ou le blanc, et puis un petit peu de lécithine, et puis d'autres saveurs qu'on peut y ajouter.
Et ça a quand même quelques vertus nutritionnelles ou pas du tout, tant qu'on y est?
Oui, bah oui, là je vous rassure tout de suite. Comme ça, on casse aussi ce côté-là. Il faut savoir aussi qu'on en mange quasiment 7 kilos par an, par personne. Donc bon, il faut quand même lui trouver quelques points positifs aussi à ce chocolat. C'est une bonne source de fer, de cuivre, de magnésium. Et puis c'est surtout anti-hypertension, antidépresseur. Je souligne bien celui-ci, comme ça, en ce moment, voilà. on peut en profiter un peu plus, vous voyez.
Voilà, ceci explique cela. Et dites-moi, il y a un chocolat meilleur que les autres en termes de qualité, hein, j'entends, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas les mêmes, parfois il n'y a pas les mêmes propositions, il n'y a pas les mêmes prix. On nous parle de chocolat grand cru. Qu'est-ce qui les distingue des autres?
En fait, plus le chocolat sera de meilleure qualité, avec un pourcentage élevé en cacao, moins il aura forcément de sucre et de beurre de cacao dedans. Donc il est logique qu'on va retrouver plus de minéraux dedans, d'antioxydants. Tout ça, ça va provenir des fèves de cacao de ces chocolats-là. Donc plus de fibres aussi. Donc forcément, ces chocolats seront de meilleure qualité. Et puis après, oui, vous l'avez dit, il y a aussi des chocolats grands crus qui, là, en fait, avec les fèves de cacao qui proviennent vraiment d'un endroit distinctif, Équateur ou autre. Et qu'il est, en fait, c'est comme si on parlerait d'un fromage fermier, vous voyez, qui viendrait d'une seule exploitation.
D'accord. Et comment je choisis justement mon chocolat? Comment bien le choisir?
Alors, on va faire attention aux étiquettes, hein, parce que je vous ai parlé d'une quantité de cacao dedans. Mais sur certaines étiquettes, en fait, on vous dit il y a par exemple 45% de cacao. Mais ils ne précisent pas toujours si c'est du cacao sec ou du beurre de cacao. Ils englobent parfois un petit peu, donc bon, on essaie un petit peu de tricher. Mais en général, voilà, vous retournez la tablette et vous regardez bien vraiment ce cacao sec, bon, pour une tablette de chocolat noir, par rapport au beurre de cacao qui est dans la tablette.
On ne cuisine que le chocolat noir, je me trompe?
Alors, on peut aussi cuisiner d'autres chocolats. En fait, ça va dépendre des goûts. Forcément, quand je vais travailler le chocolat au lait ou le chocolat blanc, je vais mettre par exemple moins de beurre dans ma recette. Il est déjà un petit peu plus gras que les autres, on l'a dit. Donc voilà, pour le chocolat noir, voilà, je vais pouvoir y ajouter un peu plus de beurre, de matière grasse pour le retravailler.
D'accord. Et donc, comment je le fais, moi, après mon chocolat? Comment je le fais fondre correctement? C'est au bain-marie?
Alors, le mieux, forcément, c'est le bain-marie. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas agresser le chocolat. C'est pas ça ne va pas être une chaleur trop vive. Donc, pour ça, un petit cul de poule ou un petit bol que vous placez sur une casserole qui va être plus petite. Souvent, les gens font tremper ce bol dans l'eau directement. Ça ne sera pas nécessaire. Vraiment, juste au-dessus, c'est la vapeur que vous allez créer dans votre casserole qui va faire fondre gentiment le chocolat. Et c'est pas plus long, c'est promis. Sinon, pour les plus rock'n'roll, il y aura toujours le micro-ondes. Hein, on va forcément me proposer ça. Mais alors, attention si vous faites un micro-ondes. Moi, je conseille plutôt de le mettre en position presque décongélation, vous voyez. Et puis, vous allez par tranche de 20 secondes. Et vous l'arrêtez, vous mélangez entre deux, mais surtout pas 1 minute 30, sinon la force va l'avoir.
Autant le faire au bain-marie si ça prend ce temps-là, quoi.
Exactement. Franchement, c'est aussi rapide. Vous aurez un résultat qui sera vraiment top. Et puis, vous pouvez l'arrêter vraiment à la bonne période.
Bon, alors, comment je le fais, mon soufflet, moi, maintenant?
Alors, le soufflet. Alors, je peux vous donner un petit ingrédient, déjà. Vous allez voir, c'est pas très, très compliqué. Moi, je vais prendre 70 grammes de chocolat. Donc, là, moi, je prends du chocolat noir. Mais vous pourrez tester la recette avec un chocolat un petit peu moins puissant. Hein. 70 grammes de chocolat noir, 25 centilitres de lait, 30 grammes de beurre, 2 cuillères à soupe de maïzena, et après, 2 jaunes, 3 blancs d'œufs, et puis 2 cuillères à soupe de sucre.
Bon, ça, c'est super simple.
Ça, c'est simple.
Alors, comment je le fais mon soufflé ?
Alors, première étape, avec un fouet, vous allez mélanger les 2 jaunes, la maïzena, et puis une cuillère à soupe de sucre. Voilà. En parallèle, vous allez faire chauffer le lait, le chocolat, dans une petite casserole, tranquillement. Et puis après, vous allez verser ce lait chaud sur vos jaunes d'œufs. Et puis, vous allez replacer la casserole sur une plaque de cuisson. Et vous faites cuire à feu moyen pour épaissir un petit peu cette préparation. Vous voyez, un petit peu comme une crème pâtissière, on ferait. Voilà, un petit peu au chocolat. Et puis, en parallèle, qu'est-ce qu'on fait? On va monter avec un fouet électrique, c'est mieux. Hein. Vous pouvez le faire à la main, mais ça sera un petit peu plus long. Avec votre fouet électrique, vous montez les blancs avec une cuillère à soupe de sucre. Comme ça, ils vont bien tenir. Et puis, vous allez ajouter vos blancs à la préparation. Là, la petite astuce que je peux vous donner, c'est de... Alors déjà, pas monter trop vos blancs, sinon vous prenez le risque qu'ils cassent dans le four. Et en fait, vous mettez un petit peu de vos blancs dans la préparation, vous mélangez bien, comme ça, vous allez équilibrer un petit peu la température et la texture de la préparation. Et puis après, vous remettez le reste des blancs et vous montez délicatement avec une marise. Vous incorporez délicatement vos blancs à la préparation. Et en parallèle, ce que vous avez pu faire, c'est que vous avez beurré des moules, des petits ramequins. Là aussi, petite astuce, avec un petit pinceau, vous avez toujours, donc vous faites un petit rond avec votre beurre au fond du ramequin. Et après, vous avez toujours du bas vers le haut, avec des gestes bien droits et bien verticaux pour étaler le beurre dans votre petit ramequin. Comme ça, ça va lui montrer le chemin à votre soufflé. Il va bien monter, il sera bien droit et bien développé dans le four. Et une fois que vous avez beurré ça, vous allez mettre un petit peu de sucre dedans, vous allez tapoter pour enlever l'excédent, mais vous allez, ce qu'on appelle, chemiser les ramequins. Ensuite, il vous restera à mettre votre préparation à peu près 3/4 de la hauteur de votre ramequin.
Bah oui, parce que c'est pas gonflé.
Exactement. Et là, vous allez les enfourner. Alors, ça va durer 8 à 10 minutes hein, dans un four à 170 degrés. Autre petite astuce que je peux vous donner, c'est de mettre d'abord votre plaque de four dans le four. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le soufflé, il lui faut une chaleur un petit peu par le bas, vous voyez. Donc, si votre plaque est déjà bien chaude sur laquelle vous allez poser vos ramequins, ça va lui donner un petit coup de pied aux fesses pour le faire monter tout droit. Et alors, surtout, autre petit truc, les 8 à 10 minutes, on n'ouvre pas le four entre deux, bien entendu. Sinon, là, il va retomber et vous serez forcément déçu. Donc, 8
voilà,
à 10 minutes,
ça,
ça passe vite.
Et si on respecte toutes vos règles, là, il va monter, mon soufflet.
Exactement. Sinon, bah, vous pourrez m'engueuler la prochaine fois, mais je vous garantis que normalement, comme ça, il doit monter. Il n'y a aucun souci.
Donc, on n'ouvre pas la porte du four, on surveille, et au bout de quoi ? De 10 minutes, on se rend compte qu'il est prêt quand il est bien gonflé ?
10 minutes, voilà, exactement. Alors là, je vais même vous donner une dernière chose. Il y a un petit dicton qui dit que les invités attendent le soufflé, mais le soufflé n'attend pas. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous êtes à la maison, c'est que les gens attendent votre dessert et pas l'inverse. Sinon, forcément, après quelques minutes, il va commencer un petit peu à retomber. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait au dernier moment pour le déguster chaud.
Manger le soufflé tant qu'il est chaud. Voilà.
Exactement.
Eh ben écoutez, merci beaucoup, Ligori Lecomte. Bah, je vous tiens au courant, hein, évidemment,
ah bah,
parce que je vais
m'y
coller ce week-end. Je vous remercie de nous avoir éclairé de la sorte. Et puis maintenant, on est tous gourmands pour la journée, pour le week-end. Merci beaucoup, Ligori Lecomte. Je rappelle qu'on vous retrouve sur le site cuisineaz.com. Bon, allez, on se les fait même au chocolat.
Nos bisous.
Évidemment, les bisous chocolatés. Merci Ligori Lecomte, à très bientôt.
Merci,
si vous n'avez pas tout retenu de cette émission, allez, séance de rattrapage en replay sur l'application RTL, sur nos réseaux sociaux pour les recettes. Moi, je vous donne rendez-vous lundi, hein, dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, votre magazine de société, du partage et de la réflexion. Et puis la semaine prochaine, de 9h15 à 10h pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Prenez bien soin de vous, passez un bon week-end à l'écoute d'RTL, bien sûr, je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.